Europe 1, il est 6h.
C'est la locomotive économique de toute une région. Un euro dépensé au puits du Fou, ce sont des retombées à peu près de 3,20 € sur la région des Pays de la Loire.
Le moteur de toute une économie locale sur le point de repartir, le puits du Fou, parc ATM vendéen. 7000 emplois directs et indirects annoncent sa réouverture le 11 juin. Pour les autres parcs du même type, ce pourrait être le 2 juin dans les zones vertes. Ils espèrent être prêts pour les vacances d'été. Édouard Philippe doit annoncer aujourd'hui la date du second tour du scrutin municipal le 28 juin. Tient la corde. Bruno Le Maire, invité d'Europe 1 ce matin. Rendez-vous 8h15. Le ministre de l'économie attentif au sort de Renault qui envisage de fermer des sites et de licencier, de quoi faire gamberger dans les usines.
Ça reste des on-dit pour l'instant médiatiques. Après, oui, ça peut troubler le fait d'aller travailler.
Dans ce journal, de tout premiers indicateurs du déconfinement plutôt rassurants. 11 jours après, nous appellerons le secrétaire général de SOS Médecins. Et puis, un commerçant peut-il refuser votre paiement en espèces de peur d'être contaminé par des pièces ou un billet? Non, c'est illégal. L'argument sanitaire n'est pas recevable.
Les études qui ont été faites montrent que les billets de banque, eh bien, sont moins porteurs que justement une carte bancaire que l'on met dans un terminal de paiement.
Votre invité à 6h40, Pierre.
Alain Griset du Conseil des commerçants de proximité. Les apprentis sont-ils menacés dans cette crise? Oui, et il nous dira ce qu'il faut faire.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Pierre de Villeneuve, Jérôme Lacroix.
Un peu plus de bleu dans les cieux de nos vacances d'été. Plusieurs sites touristiques ainsi que des parcs à thème pourraient rouvrir à partir du 2 juin seulement dans les zones vertes. Et si l'épidémie ne reprend pas de vigueur, la date doit être confirmée par le gouvernement la semaine prochaine.
Elle serait concernée Vulcania à Clermont-Ferrand, la Cité de l'Espace à Toulouse ou encore le Puy du Fou. La direction du parc vendéen annonce une réouverture le 11 juin. Le temps de tout préparer, un soulagement pour un grand nombre d'élus et de professionnels des environs, tant le site est un moteur de l'économie locale. Charles Guyard.
C'est une belle victoire, c'est un ouf de soulagement.
La réouverture du Puy du Fou, Véronique Besse peut d'autant plus la savourer qu'elle avait lancé une pétition dès le 9 mai pour la réclamer. Pétition qui, en quelques semaines, avait recueilli pas moins de 24 000 signatures. Il faut dire que pour la mer des Herbiers, commune située à 8 km, le parc représente un atout considérable.
C'est la locomotive économique de toute une région. Un euro dépensé au Puy du Fou, ce sont des retombées à peu près de 3,20 € sur la région des Pays de la Loire. Il y avait vraiment des gens en difficulté, notamment des hébergeurs qui, toute l'année, mise sur l'ouverture du Puy du Fou pour accueillir les touristes et qui, là, n'avaient aucune réservation. Donc, ça devenait économiquement problématique.
Illustration à la maison Marie Barraud. Cet hôtel, situé également aux Herbiers, dépend directement de l'activité du Puy du Fou, surtout en cette saison. En résumé, si le parc est vide, l'établissement le reste aussi.
Je suis en train de traiter les annulations jusqu'au 5 juin.
Gérard Soulard, patron de l'hôtel.
Parce qu'en cette période de l'année, 90% de notre clientèle, c'est une clientèle du Puy du Fou. Donc, quand le Puy du Fou est fermé, on est quasiment à l'arrêt.
Avec la réouverture du parc le 11 juin, c'est donc toute une économie qui va reprendre progressivement. Le Puy du Fou, cela représente 7000 emplois directs et indirects dans le secteur. Les Herbiers, Charles Guyard, Europe 1.
Le tourisme qui doit bénéficier d'un plan d'aide de 18 milliards d'euros. Et combien pour un autre secteur en crise? L'automobile, le plan du gouvernement doit être dévoilé la semaine prochaine. Bruno Le Maire est ce matin l'invité d'Europe 1.
Oui, et rendez-vous à 8h15, interview de Sonia Mabrouk. Et puis vous, bien sûr, ensuite, vous posez vos questions au ministre de l'économie, 3921, ou le hashtag Radio Ouverte.
Il sera notamment question de Renault, qui pourrait fermer au moins 3 sites et licencier en raison de la crise. La marque fleuron français doit économiser 2 milliards d'euros. Elle présente un plan de sauvetage vendredi prochain. Bruno Le Maire, qui dans le Figaro ce matin met la pression sur le constructeur. Le prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros n'est pas encore signé. Renault doit s'engager notamment sur un maintien d'activité en France.
Comment ces incertitudes sont-elles vécues par les salariés dans les usines? Nous avons contacté ceux du site de Sandouville en Seine-Maritime. Le travail y a repris tout juste hier soir. Après 2 semaines de fermeture sur décision de justice pour raison sanitaire, procédure de la CGT, mais dénoncée par les autres syndicats. Gilles Henry est délégué CFE-CGC à Sandouville.
Je suis très heureux de pouvoir reprendre l'activité après 8 jours de fermeture administrative. Donc une vraie injustice pour moi de ne pas pouvoir aller travailler pendant ces 8 jours-là.
Et la situation du groupe, l'actualité autour de Renault, est-ce que ça pèse sur le moral au moment de revenir?
Toute fermeture faisant partie d'un groupe pèse. Quand on nous dit que sur le groupe Renault France, 4 usines sont susceptibles, parce que c'est susceptible, moi j'ai pas eu de confirmation de la part de mon entreprise. Donc ça reste des on dit pour l'instant médiatiques. Après, oui, ça peut troubler le fait d'aller travailler.
Renault, l'aide au secteur automobile, à l'aéronautique aussi, notre économie en temps de crise du coronavirus, les réponses de Bruno Le Maire à partir de 8h15 sur Europe 1.
Et l'avis de Francis Bartholomé, président du Conseil national des professions automobiles, également tout à l'heure à 7h40. Le gouvernement va trancher aujourd'hui sur la date du second tour du scrutin municipal, qui n'a, vous le savez, pas pu se dire en mars. Le Premier ministre Édouard Philippe doit s'exprimer ce matin.
Date sans doute choisie le 28 juin, sauf si d'ici là la situation sanitaire se dégrade, Adrien Beck.
Trouver la solution la moins mauvaise, voilà à quoi s'est employé Édouard Philippe ces dernières heures. L'option qui tient la corde, un second tour le 28 juin, date souhaitée par Emmanuel Macron et son Premier ministre, voulue par les maires. Elle présente l'avantage d'en finir rapidement avec le douloureux chapitre municipal, une date conditionnée bien sûr à la situation sanitaire et avec d'autres inconnus. Quelle sera la participation et comment faire campagne sans faire de réunion alors qu'il sera difficile de distribuer des tracts et de faire du porte-à-porte. Une élection sans campagne, c'est compliqué, mais il faut en finir, dit un ministre, quitte à favoriser les maires sortants et à sacrifier les candidats de la majorité. Quelle que soit la date, assure un ministre, ça n'inversera pas la vapeur pour les candidats de La République En Marche.
Édouard Philippe doit remettre aujourd'hui ou demain matin son rapport au Parlement. Le Conseil scientifique sera appelé à donner une nouvelle fois son avis 2 semaines avant la date fixée. Sur le front de l'épidémie, toujours la décrue depuis plus de 40 jours maintenant du nombre de patients à l'hôpital en réanimation. Ils sont 1745 désormais, près de 64 000 personnes guéries depuis le 1er mars.
Pour un bilan de 28 215 décès, 83 supplémentaires ces dernières 24 heures. Une première, aucun nouveau décès enregistré en Nouvelle-Aquitaine, l'une des régions toutefois les moins touchés.
Déconfinement jour 11, cette liberté retrouvée encore encadrée a-t-elle eu des effets sur la situation épidémique en France? Peut-on déjà savoir par exemple si le virus reprend de la vigueur ou si au contraire il continue de reculer? On a déjà quelques indicateurs ce matin, une petite idée provisoire via les médecins généralistes mais aussi SOS Médecins.
Bonjour Serge Smadja.
Bonjour.
Secrétaire général de SOS Médecins, ce matin des chiffres encourageants de votre côté?
Oui. On voit que déjà depuis plusieurs jours et quelques petites semaines, l'activité est nettement en baisse. Nous rencontrons beaucoup moins de gens qui présentent des tableaux suspects de Covid. Pour vous donner un ordre
beaucoup
de grandeur...
Dix fois moins, Serge Smadja.
Oui, c'est ça. Voilà, c'est de l'ordre de 10 fois moins, puisque au pic de l'épidémie fin mars, notre activité quotidienne était presque de 2500 suspicions Covid par jour. Et aujourd'hui, on est autour de 300-350, c'est de cet ordre-là. Donc, l'activité baisse nettement. Ouais. Nous procédons donc... conformément à la doctrine, nous procédons au test dès que possible parce qu'il faut tester et isoler et remonter la chaîne de contamination. Et nous avons aussi une bonne nouvelle que beaucoup de tests reviennent négatifs. Mais on a une activité qui est donc nettement en baisse. Mais
Prudence, parce que là, il y a eu le déconfinement et on sait que la période d'incubation, c'est 2 semaines, c'est 14 jours.
Voilà, période d'incubation 2 semaines, le temps que les gens, quand ils présentent des symptômes, voient leur médecin, parfois ils attendent encore un jour ou deux, le temps d'avoir le résultat du test, et après il faut remonter la chaîne et il faut tout faire pour bloquer la transmission, la propagation de l'épidémie, essayer de remonter toute la chaîne pour éviter évidemment que ça reparte. Pour l'instant, la baisse s'est stabilisée,
Craignez un scénario catastrophe ou pas du tout? Ou ce scénario catastrophe, il est exclu?
Alors, je crois que personne ne peut dire c'est difficile à dire qu'il soit exclu. Je pense que cette hypothèse reste l'hypothèse la moins probable. Mais pour autant, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que si on dit ça et que les gens considèrent que tout est gagné et qu'ils ne font plus attention du tout, là, peut-être qu'on risque d'avoir une très mauvaise surprise.
Eh bien, merci, Serge Smadja. On restera prudent. Secrétaire général de SOS Médecins, merci d'avoir été ce matin l'invité du journal de 6h sur Europe 1.
Cette question à présent, un commerçant peut-il refuser que vous le payiez en espèces par peur d'être contaminé par vos pièces ou vos billets? Eh bien non, c'est illégal.
La répression des fraudes a été saisie, elle prend le sujet très au sérieux, Clément Le Saffre.
En la matière, il y a une règle absolue. Les espèces sont le seul type de paiement que les commerçants sont obligés d'accepter. En cas de refus, c'est 150 euros d'amende coronavirus ou pas. Sauf que certains petits commerçants comme grandes enseignes ne jouent pas le jeu en acceptant que la carte bancaire pour des raisons soi-disant sanitaires. Et c'est ce que dénonce François Daoust, délégué général de la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire, qui vient de saisir la répression des fraudes.
Les études qui ont été faites montrent que les billets de banque, eh bien, sont moins porteurs que justement une carte bancaire que l'on met dans un terminal de paiement. À partir du moment où le caissier ou la caissière scanne ce que vous avez posé sur le tapis roulant, on se focalise sur un faux problème.
Alors nous avons contacté des entreprises accusées de refuser des paiements en espèces. Castorama et Bricomarché, par exemple, plaident une erreur de communication et assurent que tous les types de paiements sont acceptés. En revanche, la chaîne de fast-food Burger King assume, si le respect de la sécurité de nos équipiers et nos clients l'exige, nous pouvons être amenés à refuser le paiement en espèces. Et ce, alors même que le défenseur des droits rappelle aux commerçants que refuser les espèces est illégal, mais aussi discriminatoire envers les populations les plus vulnérables, qui n'ont parfois pas d'autres moyens de paiement.
Des manifestations de soignants hier, notamment à Paris, devant l'hôpital Robert Debré, plusieurs centaines. Ils réclament plus de moyens pour l'hôpital public et des hausses de salaire. Une grande consultation baptisée Ségur de la Santé, du nom de l'avenue parisienne où se trouve le ministère de la Santé, doit démarrer lundi.
Et d'ailleurs, on en reparle dans cette matinale d'Europe 1 de ce Ségur de la Santé.
Europe 1, il est 6h11.
Le virus frappe fort l'Amérique du Sud. Bilan quotidien record de décès au Brésil. Plus de 1100 morts pour plus de 20 000 décès désormais.
Les États-Unis, pays le plus mortel, touché, plus de 94 500 décès. Les drapeaux des édifices fédéraux seront en berne partout dans le pays d'aujourd'hui à dimanche, annonce cette nuit Donald Trump pour honorer les victimes. Et puis la Chine annonce qu'elle ne fixera pas d'objectif de croissance cette année, c'est inédit.
Annonce du Premier ministre cette nuit lors de la session annuelle du Parlement au cours de laquelle les autorités se sont félicitées, je cite, d'une réussite stratégique majeure dans le combat mené contre le virus.
Nous parlions en début de journal de la possible réouverture des parcs à thème le 2 juin en zone verte donc pour les vacances d'été, mais qu'en sera-t-il des voyages à l'étranger? Plusieurs pays, souvent prisés, ont l'intention de rouvrir leurs frontières. C'est le cas de la Grèce. Dès le 15 juin, les ressortissants européens pourront atterrir à Athènes, Élise Dangean, mais pas tous, hein.
Alors attention, pas question pour la Grèce de faire entrer tout le monde. Seuls une vingtaine de pays pourront envoyer leurs ressortissants sur le sol grec, notamment les moins impactés par l'épidémie. Le ministre du Tourisme a déjà cité l'Allemagne et les Balkans. Mais qu'en est-il de la France? Eh bien, selon nos informations, elle pourrait elle aussi faire partie du club pour une raison assez simple. C'est l'un des pays qui envoie le plus de touristes en Grèce. Le verdict devrait tomber d'ici la fin du mois de mai. Et si la France fait partie des heureux élus, les compagnies aériennes l'assurent, elles seront prêtes. Le Paris-Athènes d'Air France va par exemple monter en puissance tout au long du mois de juin. Reste à savoir si les Français auront le droit de partir hors des murs, une question qui n'est toujours pas tranchée par le gouvernement.
Avant les vacances d'été, vous profitez peut-être de ce pont de l'Ascension ensoleillé. Les forces de l'ordre constatent pour l'instant un respect global de la règle des 100 km.
Et ceux qui franchissent cette ligne rouge, s'il reste rare, cumule souvent d'autres délits routiers. Dans la Drôme, hier, 5 jeunes contrôlés sur l'autoroute A7 vers Valence en direction du sud. Récit de Patrick Martinez, chef d'escadron à la sécurité routière du département, il raconte.
Deux véhicules ont été contrôlés à 239 et 240 km/h, une Audi RS4 et une Audi A3, avec 5 personnes au total, qui venaient de la commune de Hyères, qui semble-t-il étaient partis faire la fête à Lyon, sans motif légitime, et qui de fait là ne respectaient pas non plus la distance des 100 km. À cela, l'un des véhicules, le chauffeur en titre, lui aussi cumulait encore plus, puisqu'il n'avait plus le droit de circuler, mais en plus son véhicule n'était pas assuré. Moralité, les deux permis de conduire ont été retirés sur le champ et en plus, leur véhicule est mis en fourrière jusqu'au jugement. Donc effectivement, ça va leur coûter cher. Depuis le début du confinement, nous avons effectivement constaté un esprit cumulatif chez les personnes qui ne respectaient pas le confinement. C'était souvent aussi des personnes qui ne respectaient pas le code de la route.
Patrick Martinez, chef d'escadron à la sécurité routière de la Drôme, propos recueillis par Marion Dubreuil.
Oui, et tout cela est très constructif. Et si vous n'avez pas la possibilité de partir, un bon moyen de s'aérer l'esprit et le
le corps, c'est le sport. Sauf que le foot ou le basket entre copains désormais, c'est sans se toucher. Geste barrière oblige. Et c'est loin d'être évident. Comme l'on dit, c'est sportif déconfiné à Mathieu Bock.
Après 2 mois de confinement, quand on a envie de sortir, c'est normal, on va aller jouer au foot.
Sur ce terrain de foot coincé entre 2 immeubles, seul le gardien porte un masque et encore sous le menton. Ils sont moins de 10 à jouer et même s'ils essaient au maximum de ne pas se toucher, impossible de résister à ce foot au soleil.
Même si on se pousse, etc., franchement, on reste un peu à distance.
Vous jouez moins musclément, moins
sur... Ouais, franchement, en vrai. Franchement, je vais vous dire, je préfère jouer comme ça dans un terrain collectif avec peu de personnes que monter dans les transports. Franchement, il y a des gens dans le métro, j'ai vu ça, ils ne respectent pas les distances, etc. Ils sont prêts presque à vous embrasser.
Un peu plus loin, Jordan et Abel s'affrontent en 1 contre 1 sur un terrain de basket. Eux aussi ont modifié leur manière de jouer.
Bien sûr, on essaie de faire attention, mais en même temps, on ne veut pas perdre parce que c'est aussi un peu de compétition. Et ouais, forcément, du coup, on essaie de garder une distance de sécurité, mais on n'y arrive pas toujours.
Là, on essaie de moins coller. Là, on essaie juste de contrer le shoot. De toute façon, là, on joue pas sérieusement. Mais ouais, le basket, c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Et avec le confinement, c'est compliqué.
Et même si les deux garçons sont ravis de rejouer ensemble, ils se rendent bien compte qu'ils ont perdu leur niveau d'avant et ne pensent pas le retrouver avant l'été.
Et puis, on parle de sport. Tenez, les travées d'un stade garni de supporters en carton. C'est l'idée du club de foot, oui, de Mönchengladbach, première division allemande, la Bundesliga, qui a repris la semaine dernière. On vous en a parlé sur Europe 1, mais à huis clos, donc sans fans de chair et d'os. Alors le club propose de remplir les gradins avec votre avatar en carton, une figurine avec votre visage, moyennant 19 euros.
Ah.
Match demain contre Leverkusen. 13 000 mannequins sont déjà installés dans un stade qui compte 54 000 places.
C'est une question d'argent, alors. Fallait le dire dès le départ.
J'ai trouvé ça
parce
un peu
que d'abord, les cartons, on se dit, mais à quoi bon?
Il paraît que les joueurs ont dit, c'est vraiment.
Et en fait, c'est pour
bien
soutenir aussi le stade.
Oui, apparemment, les joueurs
19 euros fois, je ne sais pas combien, 54 000 places, voilà.
C'est pas encore.
Vous savez ce que disait Gordon Gekko dans Wall Street?
Dites-moi.
It's all question of box. Rest is conversation. C'est une question d'argent. Le reste, c'est de la conversation.
Voilà.
C'est
un point de vue.
C'est un point de vue, en effet, très assumé d'un banquier libéral de Wall Street dans les années 80, donc on peut comprendre. Merci, Jérôme Lacroix. Et à tout à l'heure pour le journal de 7h30.